Vous êtes sur RTL.
Merci à Cordiac. Détail Nissan.fr.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver, bien évidemment, comme chaque samedi, un invité de marque exceptionnel qui sera ce soir Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon, pour un On refait le match du 13 juin. Nous parlerons de tous les sujets qui collent à Lyon, mais également au football français et européen en général. Nous évoquerons la Ligue 1 à 22, la Ligue des Champions, ses dates, ses lieux, le Paris Saint-Germain qui a retrouvé Neymar, qui a perdu Thiago Silva, qui ne doit pas être conservé par le PSG. Nous serons ce soir avec Philippe Sanfauché, avec Silvestro d'RTL. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et puis tout à l'heure, pour le débrief de l'entretien avec Rudy Garcia, Giovanni Castaldi et Sébastien Tarago du journal L'Équipe, Baptiste Durieux est là avec nous pour relayer l'opinion des auditeurs sur les réseaux sociaux. Également, nous aurons effectivement aussi des auditeurs avec nous. Vous êtes sur RTL jusqu'à 20h pour On refait le match. À tout de suite.
On refait le match.
Denis Balbi, c'est à Cordiac, voir Renault.fr. RTL, on refait le match
avec Denis Balbi.
Merci d'être avec nous jusqu'à 20h. On refait le match avec Philippe Sanfauché, Eric Silvestro d'RTL, Giovanni Castaldi et Sébastien Tarago de L'Équipe tout à l'heure, Baptiste Durieux pour relayer les propos des auditeurs, en tous les cas leurs opinions. Nous serons également avec Julien, supporter de Lyon, et Sébastien, supporter de Lyon tout à l'heure. Mais notre invité exceptionnel ce soir, c'est Rudy Garcia, l'entraîneur de Lyon. Rudy, bonsoir.
Bonsoir Denis.
Merci d'être avec nous ce soir pour quelques minutes. Rudy, d'abord, évidemment, comment... Allez-vous, comment sont vos sensations par rapport aux retrouvailles avec les joueurs, avec l'entraînement, les sensations sportives, humaines?
Déjà, bonsoir Eric et Philippe, bonsoir, qui sont Eric. Avec bonsoir, vous. Allez. Et les sensations sont excellentes. Il y a eu un enthousiasme cette semaine sur les terrains d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Vraiment un vent de fraîcheur et tout le monde est content de se retrouver. À tel point que j'ai même dit aux joueurs cet enthousiasme, il faut qu'on soit capable de le garder tous les jours. Quand c'est très bien, c'est facile, et quand c'est un peu plus dur, comme parfois pour certaines équipes, il faut être enthousiaste parce que c'est important. Mais là, il y a un vrai plaisir de se retrouver, même si pour l'instant c'est pas encore du vrai football, parce qu'on a des groupes d'entraînement de 10 joueurs maxi pour respecter effectivement les règles. J'espère que d'ailleurs bientôt et peut-être demain, avec l'allocution du président Macron, ça va évoluer. Mais pour l'instant, vraiment, on a fait un gros travail cette semaine, et les gars sont bien fatigués, mais ils sont contents d'être fatigués. On avait vraiment hâte de reprendre, et puis ça fait plaisir de revoir du football à la télé. Donc dès que j'aurai fini avec vous, je vais me plonger sur Bayern de Munich, Mönchengladbach, puisque les Allemands ont repris depuis un petit moment, et puis j'ai bien sûr regardé le derby de Séville. L'Italie hier soir avec Juve Milan, et les Anglais arrivent, voilà, malheureusement, à être les seuls à regarder ça à la télé et qu'à la télé.
Alors, avant de laisser Eric et Philippe Sanfourche intervenir, ma première question, c'est: est-ce que les joueurs sont déjà portés vers ce match de la Juve? Parce qu'avec tout ça, on a vraiment l'impression que Lyon, on a beaucoup parlé de Lyon ces derniers temps, avec notamment le président Aulas qui était notre invité il y a quelques semaines, que Lyon est vraiment dans le dur, etc. Mais Lyon est encore en Ligue des Champions contre la Juve avec un avantage d'un but marqué, Rudy.
Oui, on a non seulement le huitième de finale retour contre la Juve à jouer, on ne sait pas si ce sera en Italie ou peut-être à Lisbonne, comme ça se murmure, et puis on a une finale de Coupe de la Ligue à jouer. Voilà, c'est deux portes d'entrée pour l'Europe, une pour la Ligue Europa et l'autre pour la Ligue des Champions, même si ça peut paraître peut-être un peu prétentieux de dire que on peut encore accéder à la Ligue des Champions par la Ligue des Champions en finissant cette saison. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on va finir la saison 19-20, puisque la Coupe de la Ligue en fait partie, et la Champions League aussi, là où on n'a pas pu finir le championnat. Puis pour parler du président, il a été admirable de combativité, de pugnacité, et contrairement à ce qu'on dit, pas que pour défendre l'Olympique Lyonnais. Moi, mon avis, c'est que tout le monde est perdant dans la décision beaucoup trop hâtive de la Ligue de football professionnel. Y a des clubs qui vont être en difficulté financière, qui vont être obligés de vendre leurs meilleurs joueurs. Et je pense que le championnat de France de Ligue 1 va s'affaiblir, malheureusement. Maintenant, notre président, il a été pugnace, énergique, et il a occupé, lui, le terrain médiatique et juridique. Et nous, on va tout faire pour occuper à la hauteur de sa pugnacité les terrains de football, parce que c'est là où on est bien, nous.
Philippe Sanfourche.
Alors Rudy, il y a pas mal de dossiers évidemment qui nous intéressent. On va essayer d'être le plus complet possible. Puis on l'a évoqué, donc revenons sur ce huitième de finale retour. On l'a dit, pour l'instant, il y a une zone de flou. On va vite le savoir cette semaine. Ça peut être à Turin, comme ça peut être à Lisbonne. On peut imaginer que vous préférez que ce soit à Lisbonne.
Je sais pas, ce qui compte, c'est... Non, mais franchement, ce qui compte, c'est de le savoir. C'est-à-dire qu'on va attendre le... Je crois que c'est le comité exécutif de l'UEFA le 17 juin, qui avait été reporté à juste titre, de manière intelligente, de mai à juin. Eux, ils ont attendu et ils ont bien fait. Et donc, on va attendre cette décision, parce que j'ai l'impression que la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France, mais nous, c'est que la finale de la Coupe de la Ligue qui nous intéresse, sera fixée en fonction... des dates que l'UEFA donnera pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et je dis ça, et c'est important, parce que nous, on a très besoin, et je répète, très besoin, de savoir quand est-ce que sera notre premier match de compétition, parce qu'on peut pas se préparer pour le 24 juillet si on joue que le 1er août. Ça me paraît tout à fait logique.
Éric Silvestro.
Rudy, vous dites tout le monde est perdant. Moi, j'ai envie de vous dire que par rapport à la Juve et à la Ligue des Champions, peut-être que Lyon sera gagnant avec cette préparation qui sera adaptée, parce que la Juve doit à la fois jouer le championnat où c'est très serré, plus la Ligue des Champions avec un but de retard. Il n'y aura pas de public côté italien, quoi qu'il arrive, même si ça joue à Turin. Est-ce que tous perdants pour le championnat, d'accord, mais est-ce que par exemple sur la Coupe d'Europe, Lyon ne peut pas être gagnant par rapport à ça?
Si on passe la Juve et qu'on va en quart de finale, oui.
Mais même contre la Juve?
Non, mais je vous explique. Si on passe la Juve, ce qui va déjà être un exploit si jamais on le fait, et qu'on, même si on a un but d'avance et qu'on veut se qualifier, évidemment, même si on sera loin d'être favori, mais si on passe la Juve et qu'on va en quart de finale, oui, ce sera une opportunité incroyable, parce qu'il y aura un match de quart de finale, un match de demi-finale et un match de finale. Par contre, si vous me demandez est-ce que vous préférez que votre match de, contre la Juventus de Turin en huitième de finale avec des champions, ce qui est quand même pas un petit match, il soit votre deuxième match de reprise après trois mois d'absence, trois mois d'arrêt, ou alors votre quinzième match de compétition après avoir repris et joué et fini votre championnat comme ça va être le cas pour la Juventus de Turin. Bah, tous les jours, j'aurais aimé finir mon championnat pour être prêt pour la Ligue des Champions. On va arriver dans des conditions contre une équipe qui sera en pleine puissance et en pleine activité. Et nous, on l'a bien vu avec Juve Milan hier. C'était un match où les équipes sont un peu diesel. Manque de rythme parce qu'elles sont pas prêtes. Et nous, notre quadrature du cercle qu'on va devoir résoudre, c'est justement sans jouer de match officiel, si ce n'est peut-être la finale de la Coupe de la Ligue avant ce huitième de finale de la Ligue des Champions, bah arriver sans être diesel et être en pleine possession de nos moyens. Donc on va tout tenter et être inventif pour arriver à ça.
Éric Silvestro.
Rudy, vous n'aurez pas de match, c'est vrai, mais la Juve aura aussi beaucoup de matchs dans les jambes après trois mois de coupure, et avec une préparation qu'il a fallu faire vite, c'est pas non plus forcément l'idéal.
Non, mais si vous avez regardé le match de la Juve hier...
Il est comme ça, Éric, hein, il insiste.
Il a raison, mais quand vous voyez ce qui sort du banc de touche à la Juventus de Turin, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Ils peuvent mettre un 11 de départ ou un 11 complètement différent et avoir la même qualité dans l'équipe. Après, bien évidemment qu'ils ont un des top players du monde. Effectivement, c'est Cristiano Ronaldo.
Philippe Sanfour.
Puisqu'on parle de la préparation, vous avez été les premiers à reprendre le 8 juin. On peut imaginer qu'il y a une dimension aussi un petit peu symbolique, puisque Lyon était demandeur. Non, bon, bah, c'est une réponse déjà. Mais quand même, ce qui interpelle, c'est quand on voit que le premier rendez-vous va être très probablement face au Paris Saint-Germain, que c'est pas encore officiel, mais que la date du 25 juillet semble quand même être la bonne pour cette finale, et que le Paris Saint-Germain va reprendre le 22 juin. On se dit 8 juin, 22 juin, il y a une vraie différence quand même. Mais je vous ai entendu, si j'ai bien compris, évoquer le fait qu'après 4 semaines de grosses préparations foncières, vous serez obligé de redonner quelques jours de repos à vos joueurs.
Alors, il y avait deux possibilités d'approche pour cette reprise. C'est une reprise, c'est une reprise que personne n'a jamais connue, si ce n'est quand un joueur est blessé longuement. Mais pour un groupe, une équipe, personne n'a jamais connu trois mois d'arrêt. Voilà, moi, ça fait, ça fait bien trop longtemps. Déjà, je vais pas donner la date que je suis dans le foot. Et personne n'a jamais vécu ça. Donc il faut réfléchir. Et il y avait deux approches. Ou on reprenait plus tard. Et effectivement, on faisait une préparation sans coupure. Ou on reprenait, comme on l'a estimé, 8 semaines avant, 2 mois avant. Enfin, on sait pas si c'est, comme on sait pas le premier match de compétition, il a bien fallu anticiper aussi. Et puis très honnêtement, on a aussi pensé qu'on pouvait reprendre à un moment le championnat de France 19-20. Mais on a, nous, décidé de faire une grosse préparation de 4 semaines et de laisser 5-6 jours, peut-être 7 si jamais les dates de reprise sont un peu plus lointaines, aux joueurs pour souffler et de repartir sur un sprint, on va dire, de 3 semaines de préparation. On verra si on a eu raison ou pas. On verra si nos joueurs sont prêts ou pas.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Rudy Garcia pour quelques minutes encore. Merci Rudy Garcia d'être avec nous, invité exceptionnel d'Orfel Match, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Nous parlerons du mercato, bien sûr, de la défense centrale, le point un petit peu d'âge chopant de cette équipe de Lyon depuis quelques saisons. Les jeunes également au pouvoir avec Ryan Cherki qui peut exploser la saison prochaine. Nous sommes avec Rudy Garcia, Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Sébastien Tarago de l'équipe et Giovanni Castaldi. À tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL. Par détail sur citroën.fr, équipement sans version. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Giovanni Castaldi, Sébastien Tarago du journal L'Équipe et Rudy Garcia comme invité exceptionnel, l'entraîneur de Lyon. Rudy, un petit mot, enfin même plus qu'un mot, hein, sur le mercato.
Ça va bien, moi.
Oussem Aouar est vraiment le joueur le plus convoité. Bon, on a vu son talent qui a explosé la saison, on va dire d'avant, parce qu'il a un petit peu eu du mal cette saison à confirmer. Il y a eu quelques pépins, la saison a été un petit peu curieuse, tronquée. Oussem Aouar va partir ?
J'espère que non. Sportivement, j'espère que non. Lui et Moussa Dembélé, qui sont souvent les deux joueurs qui reviennent un petit peu dans les possibles départs, j'espère bien qu'ils vont rester à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a la volonté, évidemment, du joueur déjà.
Est-ce qu'aujourd'hui, Rudy, 13 juin, l'Olympique Lyonnais a reçu une offre pour Oussem Aouar ?
Je ne pense pas m'avancer, même si ce n'est pas mon domaine. Hein. C'est le domaine de Juninho. Et maintenant... bien épaulé évidemment par Bruno Chérou, mais comme ils m'ont pas dit qu'on avait reçu d'offre, à mon avis, je peux dire catégoriquement qu'on n'a pas reçu d'offre.
Vous n'avez Eric pas Silvestre. Cité Memphis Depay volontairement, Rudy, dans ceux qui sont souvent annoncés comme possibles partants ?
Ben non, déjà parce que on me dit qu'il apparaît moins dans les possibles partants, et tant mieux. Voilà, j'espère que Memphis sera avec nous parce que c'est vraiment l'un des top players de notre effectif et son absence a été préjudiciable comme celle de Jeff René Adélaïde mais c'était mon capitaine avant qu'il ne se blesse et on espère bien que oui Memphis il va faire la saison avec nous et nous aider à retrouver le homme voilà pour cette saison 2020-2021.
Philippe Sanfourche.
J'imagine que vous en avez parlé évidemment avec votre président et avec l'ensemble de la direction sportive, mais si malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, il n'y avait pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, est-ce qu'il est envisageable, possible, certain, de conserver les trois ? Depay, Aouar, Dembélé.
On n'a jamais eu cette discussion ni avec les dirigeants, ni avec Juni, ni avec Bruno Chérou, du fait qu'on ne serait pas européen ou qu'il y ait une possibilité de ne pas être européen la saison prochaine. On croit tous au fait qu'on sera européen la saison prochaine et on sait par quoi ça passe. Ça passe par gagner la finale de la Coupe de la Ligue et ça va être très très difficile parce qu'on va jouer non seulement la meilleure équipe de France, mais encore une des meilleures équipes d'Europe. Mais sur un match, on espère... déjà, on fera tout et on fera tout pour gagner et être européen. Mais l'Europa League, ça sera déjà ça si jamais ça arrive. Mais encore une fois, pourquoi ne pas se dire que c'est une année bizarre avec cette histoire de virus que le monde avait peu connu ou qu'en tous les cas, nos générations et les générations même de nos parents, grands-parents n'avaient pas connu. Donc c'est une année particulière. Donc, pourquoi pas se dire qu'à année particulière, résultat en Champions League particulier.
Avec spécificité aussi, le mercato franco-français d'abord, puis le mercato européen qui va s'étirer sans doute très loin. Contre, ça va poser de vrais problèmes.
Je sais pas, Bruno et Juni sont ceux qui s'occupent de ça. Moi, je m'en occupe pas, donc je sais pas quoi vous dire. Je sais que c'est ouvert franco-français maintenant. Et après, oui, ce serait bien. Moi, je peux juste répondre en tant que coach sur le fait que ce serait bien qu'il y ait une harmonisation, mais comme d'habitude. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit que de commencer un championnat avec un effectif et puis voir partir des joueurs ou même voir arriver des joueurs après la deuxième, troisième ou même quatrième journée, parce que le mercato s'étire jusqu'à la première trêve internationale, Moi, je trouve ça pas logique. Le mercato, il devrait terminer avant la première journée de championnat. Alors, je parle pas pour cette intersaison.
Là, il va débuter après la première journée.
Ouais, c'est possible, c'est possible. Donc là, c'est particulier avec ce Covid-19. C'est vrai qu'on est sur une année où tout est un peu bousculé, donc c'est pas simple.
Rudy, à Lyon, moi, je me souviens avoir vu Tolisso démarrer avec Rémy Garde comme entraîneur. On a vu la saison passée qu'il y avait un jeune qui allait forcément prendre la lumière. C'est Ryan Cherki. Il a joué 12 matchs. Est-ce que vous allez vraiment en faire la plaque tournante de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Est-ce que les jeunes vont monter de plus en plus au pouvoir dans le foot français et à Lyon en particulier?
Ryan Cherki a fait ses débuts la saison dernière et de très bons débuts, et il n'a que 16 ans. Maxence Cacré, qui est un pur produit du club, a fait ses débuts aussi depuis que je suis arrivé. On espère que Pierre Kaloulou prendra la bonne décision de rester à l'Olympique Lyonnais ce week-end.
Vous êtes confiant?
Je ne sais pas, il n'y a que Pierre qui sait ce qu'il veut décider. Ce qui est certain, ce que je peux dire, c'est que tout le monde au club, les dirigeants et le sportif, on a non seulement très envie qu'il reste, mais on a pratiquement tout fait ce qui est en notre pouvoir. Parce que je dis pratiquement, parce que peut-être que personne ne peut dire qu'on fait toujours 100% ou qu'on fait tout bien. Mais enfin, on lui a fait comprendre qu'il pouvait devenir un joueur important de l'Olympique Lyonnais et qu'on comptait sur lui. C'est lui qui doit être dans la défense de l'Olympique Lyonnais dans les années à venir. Mais après, si son choix se porte à l'étranger, on le respectera. Mais j'espère qu'il fera le bon choix. Et le bon choix, c'est de rester. Voilà, donc les jeunes, ils sont très, très importants. J'ai pas attendu, moi, la saison dernière, que Memphis Depay et Jeff Reyna-Adelaïde se blessent pour lancer Ryan Cherki. Donc voilà, quand il y a du talent, on s'en sert, mais il faut aussi le dire, et ça on le sait très bien dans tous les clubs, il faut aussi créer les conditions pour l'épanouissement d'un jeune. Donc il faut pas qu'à son poste effectivement il y ait 2-3 joueurs de très grand niveau devant lui, et voilà. Donc nous on a une armada offensive qui est importante. Et comme je vous dis, même avec cette armada offensive, Ryan a tiré son épingle du jeu la saison prochaine. Donc, la saison dernière. Donc, il faudra qu'il le fasse aussi la saison prochaine.
Philippe Sainfourche.
Rudy, les jeunes, c'est formidable, notamment pour l'avenir. Mais parfois, pour sécuriser le présent, il faut aussi des plus vieux, on va les appeler comme ça, ou plus expérimentés. Notamment dans les secteurs comme la défense centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, un garçon comme Mamadou Sakho, c'est un profil qui vous conviendrait?
Bon, il a été donné beaucoup de noms. Ce que je peux certifier, c'est qu'effectivement, on cherche un défenseur central. Ne serait-ce que parce que numériquement, on est que trois. Voilà, on a Marcelo, Denayer et Andersen. Et donc, on a besoin d'un quatrième défenseur central. Et donc, on a besoin de recruter. Après, il y a plein de noms qui vont circuler. Encore une fois, il y a que Juni et Bruno qui travaillent là-dessus.
Mais profil plutôt expérimenté.
Non, mais Pas spécialement. C'est vrai qu'on a besoin, moi je pense que, et on le sait, dans cette équipe, on a besoin d'un peu de leadership. Mais bon, des fois, il y a aussi des leaders qui sont jeunes. Et le fait du retour de Memphis, ça va ramener aussi du leadership dans l'équipe. Donc, on est plutôt en train de regarder des défenseurs centraux relativement jeunes, plutôt qu'expérimentés, même si le dossier de Mamadou Sakho sportivement est un très bon dossier. Après, moi, il y a des choses, effectivement, où je ne sais pas si financièrement, il y a des choses qui peuvent se faire ou pas faire. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien de donner des noms. Ce qui est sûr, c'est qu'ils bossent. Voilà, Juninho est maintenant avec Bruno et ça bosse. Et un petit coucou aussi à Florian Maurice, qui a vraiment fait du bon boulot à l'OL et à qui je souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure.
Eric Silvestre.
On a beaucoup parlé des premiers mois extrêmement difficiles d'Andersen. Vous parlez d'ailleurs du recrutement sans doute et quasiment certain d'un défenseur central. Est-ce que vous croyez à une deuxième saison complètement différente? Est-ce que malheureusement il risque de payer l'arrivée aussi d'un défenseur central? Comment vous voyez le cas Andersen, qui est quand même un très gros investissement pour l'Olympique Lyonnais?
C'est parfois difficile de s'adapter à un nouveau championnat, à un système différent. La Sampdoria, où Joachim Andersen a fait une très très bonne saison en Italie et où il est très coté là-bas, joue de manière différente de l'Olympique Lyonnais. Et puis il faut lui laisser le temps et d'apprendre la langue et d'apprendre à jouer avec ses coéquipiers. Il a eu des moments difficiles la saison dernière, il a eu aussi de très bons moments. je pense que ça ne tient qu'à lui, effectivement, de faire une belle et grande saison. Et après, plus il y aura de concurrence dans les secteurs, et mieux le coach se portera, parce que ça veut dire qu'il y aura de l'émulation et que tout le monde sera obligé de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir jouer.
Rudy, l'autre jour, Luis Fernandez était notre invité. Il militait un petit peu pour les anciens joueurs dans les instances. Il n'y en avait pas assez, selon lui. Il citait de nombreux champions du monde 98. Quel est votre sentiment ?
J'avoue que j'y ai pas réfléchi, mais si Luis le
c'est pas un truc qui vous brancherait, vous d'aller dans des instances plus tard pour faire.
Alors maintenant, tout en réfléchissant à répondre à votre question, je pense qu'en tous les cas, ceux qui ont joué sont bien placés pour parler effectivement de la réalité du terrain et de qui pourrait être fait et amélioré, ça c'est sûr. Là-dessus, Luis a raison. Et donc, qu'il soit dans les instances, ça pourrait être vraiment quelque chose qui apporte un plus. Voilà, comme Michel Platini était président de l'UEFA et c'était une vraie bonne chose qu'un joueur de très très haut niveau puisse être dans les instances. Donc effectivement, je suis d'accord sur le fait que quand il y aura plus d'anciens joueurs dans les instances, ça sera mieux. Après, encore faut-il qu'ils aient les facultés intellectuel pour bien y figurer, parce que on peut avoir été un très grand joueur et un très grand dirigeant, mais pas forcément non plus. Ça vaut aussi pour les entraîneurs. On peut ne pas avoir joué à très haut niveau, être un grand entraîneur, et l'inverse parfois n'est pas vrai non plus. Il n'y a pas de vérité, quoi.
Rudy Garcia, dernière question. Philippe Sanfourche.
Oui, Rudy, pendant cette crise, on a beaucoup parlé du fait que les joueurs devaient faire des efforts, notamment sur le plan financier. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si les entraîneurs aussi en ont fait, et qu'à titre personnel, est-ce que vous avez dû en faire?
Moi, ça me paraissait logique de le faire. Voilà, à partir du moment où votre club n'a plus de rentrée du tout et en difficulté financière, ça me paraît évidemment la moindre des choses de l'aider. Voilà. Après, je ne peux parler qu'en mon nom, parce que chacun a son avis, et tout avis est respectable par rapport à ses propres finances. On ne peut pas être dans les décisions des autres, mais moi je trouve que d'aider son club, c'est la moindre des choses. Voilà, ça, c'est mon avis personnel.
Merci beaucoup Rudy Garcia d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure d'On refait le match. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Giovanni Castaldi, Sébastien Tardot de l'équipe, Philippe Sanfourche et Eric Silvestro d'RTL. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match avec Denis.
RTL 19h. La formation Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Une nouvelle journée de mobilisation contre le racisme et les violences policières. Manifestation à Marseille, Bordeaux, Nantes, à Lille également, où la police a fait usage de bombes lacrymogènes. À Paris, 15 000 personnes sont rassemblées en ce moment. Des manifestants bloqués toute la journée sur la place de la République. En principe, le cortège devait se déplacer jusqu'à Opéra, mais la préfecture n'a pas donné son feu vert. Raphaël Vantard, vous êtes sur place pour RTL. Et l'heure est à la dispersion, semble-t-il.
Exactement, la place de la République est en train petit à petit de se vider dans un climat qui reste quand même tendu, avec ça et là des affrontements entre quelques groupes de manifestants et des forces de l'ordre. Les policiers procèdent à de nombreuses interpellations, des forces de l'ordre qui utilisent massivement aussi les gaz lacrymogènes pour disperser les derniers petits groupes de cette place de la République. Une manifestation jusqu'ici dans le calme, puisque malgré les provocations d'un groupe identitaire d'extrême droite brandissant une banderole sur le toit d'un immeuble de la place, la foule compactée est restée calme globalement toute l'après-midi. Pas de débordement non plus lors du blocage du cortège, contrairement à ce qui était prévu. Les tensions apparaissent finalement depuis l'annonce de la dispersion, une dispersion qui va se poursuivre dans un climat un peu plus serein dans les minutes qui viennent.
Raphaël Vantard, place de la République à Paris pour RTL. Merci à vous. À l'origine, manifestation donc à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, ce jeune homme noir mort en 2016 après son interpellation dans le Val d'Oise. Assa Traoré, sa demi-sœur, réclame la condamnation des gendarmes qui ont arrêté son demi-frère, ainsi qu'un procès en public. Dans le reste de l'actualité, l'usine PSA d'Ordain dans le Nord revient partiellement sur sa décision. Le groupe s'était attiré les foudres de Berlin. Bercy et souhaitait faire venir 120 salariés polonais en renfort. Seule une dizaine viendrait sur ce site du Nord, déclare la direction. Le reste de l'équipe serait en majorité composée d'intérimaires. À deux semaines des municipales, de possibles fraudes aux procurations à Marseille, dans le camp Les Républicains. Une enquête est ouverte. Deux perquisitions ont été menées ce matin dans des QG de campagne. Deux colistières de la candidate Martine Vassal seraient impliquées. On passe au temps à présent et la vigilance orange maintenue pour orages et crues dans le Puy-de-Dôme. Alerte levée en revanche pour la Haute-Loire. La météo demain sera encore instable avec une alternance de nuages et d'averses le matin sur l'Alsace, le Jura, sur les Alpes du Nord. Des éclaircies sur la région parisienne, les Hauts-de-France et la moitié sud. Côté température, il fera entre 9 et 15 degrés le matin, de 18 à 26 pour la maximale dans le sud-est l'après-midi.
Merci Aude Vernuccio. On se retrouve plus tard pour d'autres informations. Ce sera d'ailleurs avec Aurélia Valarier à 20h. Nous allons parler jusqu'à 20h justement. On refait le match avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Sébastien Tarago de l'équipe et Giovanni Castaldi. Parler de la Ligue des Champions, les dates, les matchs. Le Paris Saint-Germain, Thiago Silva qui s'en va. C'est une page qui se tourne. La Ligue 1 à 22. Et puis une petite page Mercato également. À tout de suite sur RTL.
Ten.fr.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Sébastien Tarago de l'équipe et Giovanni Castaldi. Nous allons revenir aussi avec Baptiste Durieux sur l'opinion des auditeurs sur l'entretien que nous avons eu avec Rudy Garcia, notre invité exceptionnel, et puis des auditeurs en ligne. Avant toute chose, une information, et Leonardo qui annonce dans le JDD, Journal du Dimanche demain, le départ de Thiago Silva, ça on le savait, mais celui de Cavani, donc confirmé. Cavani, Thiago Silva qui vont quitter le PSG, on en parle tout à l'heure après Lyon. Sébastien Tarago de l'équipe, bonsoir. Rudy Garcia nous a parlé tout à l'heure, que faut-il en retenir ?
Écoutez, je le trouve métamorphosé en fait. C'est-à-dire que je l'entends depuis quelques jours et je viens de l'entendre à votre micro et je le sens plein d'enthousiasme. Et donc il a l'air pressé de reprendre sans doute son métier. Mais franchement, ça me paraît... Il avait parfois l'air usé entre ce qui s'était passé bien sûr à l'Olympique de Marseille puis son arrivée à Lyon qui n'avait pas été quand même très simple. Et on a l'impression qu'il y a une volonté en tout cas de sa part de montrer depuis sa conférence de presse cette semaine à l'Olympique Lyonnais jusqu'à ces déclarations ici à votre micro, une volonté d'enthousiasme et d'amener avec lui ses joueurs pour aller chercher, pourquoi pas, un exploit en Ligue des Champions. Il a raison d'y croire. On s'est un peu moqué de lui quand il a dit qu'il pouvait gagner la Ligue des Champions. Mais eh bien, s'il y a une année où il peut la gagner, d'ailleurs il l'a exprimé de manière un peu plus précise ici tout à l'heure, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous battez la Juventus Turin, vous éliminez pardon la Juventus Turin et que derrière il y a que 3 matchs.
Ouais, c'est plus pareil. Ouais, tout à fait.
C'est plus pareil. Donc il a bien raison d'y croire même si ça paraît improbable.
Giovanni Castaldi.
Alors métamorphosé, je trouve que le mot est un peu fort parce qu'on a retrouvé aussi du bon Rudy Garcia comme on aime, qui met bien en avant les bonnes choses qu'il a faites à l'image de j'ai lancé Cherki, j'ai lancé Cacré. Oui, il est enthousiaste. Comment ?
C'est la vérité.
Oui, RTL a bien lancé Castaldi. et on le rappelle régulièrement à ce micro.
C'est vrai.
Non, mais voilà, évidemment, il y a de l'enthousiasme.
Pour passer à quelqu'un d'autre. Allez-y,
non, mais il y a de l'enthousiasme, oui, mais encore heureux, je pense que pour tous les acteurs du football, le football manque. Mais voilà, on sait Rudy Garcia, il parle toujours bien, il a bien remercié Florent Maurice, toujours le bon élément de com. Donc, je ne le trouve pas métamorphosé, enthousiaste, oui, mais pas changé.
Baptiste Durieux. Qu'en pensent les auditeurs d'RTL ?
Il y a du positif et du négatif d'abord sur le @RTLFoot. Message de Johan. Bon, je suis perdu. On cherche un défenseur avec du leadership, mais on scrute des jeunes. On veut de l'expérience, mais il ne faut pas barrer la route à Cherki et à Cacré. Une rumeur par jour sur Aouar, Dembélé et Depay, mais apparemment aucune offre. Il va être sympa ce mercato et plein de surprises. Et puis le message de Flavien, très positif. J'aime bien Rudy Garcia, il me donne le sourire. J'ai envie de prendre un verre avec lui en terrasse, détendu, belle communication. Je trouve que le confinement lui a fait du bien.
Merci Baptiste Durieux. Julien est avec nous, supporter de Lyon. Pareil, hein, même ressenti que les auditeurs qui nous ont relayé leurs opinions là sur les réseaux sociaux. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous. Écoutez, j'ai trouvé pas métamorphosé également Rudy Garcia, mais je l'ai trouvé vraiment enthousiaste, comme vient de dire
Sébastien Tarrago.
Sébastien Tarrago.
Et puis Giovanni l'a repris.
Non, mais Giovanni l'a repris.
Parce que Giovanni n'a pas trop d'idées, mais en revanche, derrière, il arrive avec la forme.
Voilà, mais quelle mauvaise foi. Par contre, Seb, il n'est pas métamorphosé, c'est toujours pareil. Toujours autant de méchanceté, ça, il n'y a pas de problème.
J'essaye d'en profiter.
Julien, allez-y, Julien.
Voilà, après, pour ce que les problèmes de fond de la défense centrale, je suis un peu d'accord avec le supporter lyonnais qui dit qu'on recherche un leadership, mais qu'on son scrutin jeune. Moi, j'ai une petite idée de défenseur qui pourrait être pas mal et qui vient d'être annoncé du départ, c'est Thiago Silva. C'est un mec qui a de l'expérience, qui peut encadrer les jeunes.
12 millions annuels.
Il est libre. Ils peuvent faire un effort sur un salaire. Excusez-moi, ils ont donné 450 000 euros par mois à Mapou qui n'a pas joué depuis 2 ans. Donc, excusez-moi.
Bon argument, Julien.
Oui, mais la situation économique n'est pas la même.
Oui, non, mais
oui, d'accord. Pas de Coupe d'Europe, bon,
Thiago,
ça me paraît compliqué.
Pour rester en Europe, peut-être en championnat de France, il sera peut-être prêt à faire des sacrifices. Il retrouvera des compères à lui, des compatriotes. Il y a Juni qui.
Mais est-ce que les monoprix sont ouverts
Oh non.
Philippe, à toi.
Julien, plus sérieusement, un avis sur Lyon et la Ligue des Champions.
Moi, j'y crois pas, personnellement.
On va rappeler qu'ils ont à gagner 1-0 le match aller, 8e de finale.
On ne parle pas d'éliminer la Juve, je pense que c'est possible. Surtout qu'on va retrouver Memphis, qu'on va retrouver Jeffrey Adelaide, qu'on n'avait pas au départ. Ryan Cherki, qui va avoir la dalle comme pas possible, à mon avis aussi, pour prouver qu'il a sa place dans le 11. Donc je pense qu'on peut éliminer la Juve. Après, aller plus loin. Moi, je mets des petites nuances. Après, on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Mais ça sera très difficile.
Je note que ni Rudy Garcia ni Julien ne citent Cornet, Traoré. Donc, c'est vraiment ceux-là qui doivent partir de l'Olympique Lyonnais pour faire de la place.
Cornet, il est capable de nous faire un match de malade comme il a fait à City.
Bertrand Traoré, c'est un peu la déception quand même, hein, Julien.
Traoré, j'ai lu une interview de sa part il n'y a pas très longtemps dans les journaux où il se disait meilleur dans l'axe et je suis entièrement d'accord avec lui.
Oui. Ouais, mais les interviews dans les journaux, on est meilleur dans l'axe ou on est meilleur à droite ou à gauche, mais enfin c'est sur le terrain que ça se joue et pour l'instant il n'a pas montré grand chose par rapport à ce qu'il avait montré
dans le
passé.
Le premier match qu'il a effectué à l'OL ou quand il jouait à l'Ajax, il était avec toujours un à côté de lui. À Lyon il y avait Fekir et à l'Ajax je sais plus qui était à ses côtés, mais il était très performant et à l'Ajax il jouait pas sur les côtés.
Il jouait à droite avec Tété. D'ailleurs Lyon avait acheté le couloir droit.
Oui, mais il repiquait très très souvent.
Il repique toujours autant dans l'axe en France.
Il a pas fait une
franchement
très bonne
c'est
saison.
Décevant quand même.
Ouais, est-ce que Sébastien, supporter de Lyon, est avec nous aussi?
Oui, bonsoir les amis, bonsoir Denis.
Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Alors votre sensation, vous aussi, sur ce qu'a dit Rudy?
Alors sur ce qu'a dit Rudy, il a déroulé sa com habituelle. On n'a pas eu trop d'infos fracassantes, mais bon, il a bien signifié que c'était maintenant le duo Juni avec Bruno Chirou qui vient de rejoindre le staff qui allait s'en occuper. Donc, moi, je trouve qu'on n'a pas trop appris d'infos. Alors, l'enthousiasme, bien sûr, après 3 mois et demi de confinement, heureusement qu'il est content de revenir. Mais je dirais que sur le... il a défendu aussi le combat du président Aulas par rapport à l'interruption de la Ligue 1. On ne sait pas trop ce que ça va donner parce que c'est quand même très compliqué. Je pense que les auditeurs de RTL qui avaient l'habitude de voir l'OL en Coupe d'Europe depuis la Coupe du Monde 98, chaque année on était qualifiés.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que les supporters de foot français, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, je supportais quand l'OL était en D2, Bordeaux, Saint-Etienne, même Saint-Etienne un petit peu malgré la rivalité, ou des Nantes. Non, mais je veux dire, tu avais des identités de jeu.
Ouais.
Et moi, ce que je reprocherais effectivement beaucoup à Rudy et je pense beaucoup de supporters, c'est qu'on n'a pas retrouvé d'identité de jeu. Et que globalement, Rudy fait à peu près un système tactique similaire à Bruno Genesio. Et Sivino, qui avait fait l'entre-deux, était aussi sur la ligne des. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on garde les mêmes façons de.
Mais là, si je peux me permettre, Sébastien, les supporters de Lyon sont quand même un petit peu spéciaux. Parce que vous êtes quand même dans un club qui est en finale d'une Coupe, qui est en 8e de finale de la Coupe d'Europe, qui a battu la Juve 1-0, et vous n'êtes encore pas content. Donc, moi, je vous
souhaite. 7e championnat.
Je veux dire qu'on n'est pas forcément. C'est pas une question de.
Quand je pense à tout ce qui est tombé sur le dos de ce malheureux Bruno Genesio, quand même, et vous avez un peu poussé le bouchon.
Mais moi, j'ai beaucoup défendu aussi, mais je pense qu'à un moment donné, il y avait des choses à faire évoluer. Vous parliez à l'instant de Traoré. Traoré. qui est vraiment un gaucher exclusif, qui joue à droite, c'est-à-dire que pour moi c'est un non-sens absolu de mettre sur une aile droite un gaucher exclusif, parce qu'effectivement vous l'indiquez, il repique toujours en centre, il ne déborde jamais pour faire des centres enroulés. Mais bon, peut-être que c'est moi qui me trompe.
Toutes les différences qu'on a vu faire dans les matchs de haut niveau, c'était toujours dans ces conditions-là. Donc
voilà, mais oui, mais sauf qu'à un moment donné, c'est prévisible. La première année, vous êtes capable de surprendre un petit peu votre monde, mais les défenseurs ensuite, ils savent exactement à quoi s'en tenir. Alors bon, moi pour l'instant, enfin, le mercato m'inquiète un petit peu, bien évidemment. Je pense que Memphis, ça va être, va certainement rester, surtout s'il prolonge, parce qu'il est dans sa dernière année de contrat et ça va être un petit peu l'enjeu de ce mercato. Mais surtout, moi, je ne veux pas voir, sans jeu de mots, mais partir Oussem Aouar. Parce que c'est vraiment le dépositaire du jeu. C'est lui qui crée l'exploit sur le côté contre la Juventus, c'est-à-dire dans les grands matchs, il est là.
Oui, il va falloir qu'il soit quand même plus régulier. Ah, oui.
Et la Juve était à 10 au moment du but. Hein.
Le problème, j'entends bien, messieurs, mais le problème d'un Oussem Aouar, c'est que depuis de nombreuses années, il joue à un poste. Il a été formé numéro 10 à l'OL. C'est un garçon qui mettait entre 30 et 35 buts chaque saison. Et depuis qu'il est rentré en pro, il a toujours joué milieu relayeur défensif. Il n'a jamais été installé dans un poste de numéro 10.
Non, mais là, Sébastien, vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire qu'Aouar, il joue depuis 50 ans au club. Ça fait 2 ans qu'il est en Ligue 1.
Ah non,
il a beaucoup de liberté offensive quand même. Il lui arrive même de jouer ailier gauche.
C'est les autres qui s'adaptent à la façon dont il joue. Il a une grande liberté pour un jeune joueur.
Il a un petit peu joué effectivement ailier gauche. D'ailleurs, on a vu le débordement côté gauche contre la Juve. Mais je vous garantis que les précédentes saisons, ça fait, il a déjà 24 ans, Oussem. Et ça fait 4 ans qu'il est dans l'équipe pro. Et voilà, quand je vous dis en jeune, jusqu'en U17, U19, il était numéro 10 et il mettait beaucoup, beaucoup de buts. Là, il joue plus bas.
Plus de numéro 10 dans le foot chez les pros. Donc.
Et non, mais jouer dans un 4-3-3 relayeur avec beaucoup de liberté, tout Giovanni était fait pour Oussem Aouar. Et alors, 24 ans, je pense que c'est un peu trop de mémoire. Il a 21 ans, Oussem Aouar.
Non, il est 97. Bon,
on va regarder ça. Merci à Julien, merci Sébastien en tous les cas. Merci à Julien, supporter de Lyon, d'avoir été avec nous. Oussem Aouar, donc il y a 21 ans.
Bientôt 22 dans quelques jours.
Voilà, merci d'avoir été avec nous en tous les cas pour parler de Lyon et réagir aux propos de Rudy Garcia. On se retrouve dans quelques secondes. Nous parlerons de la Ligue des Champions et du Paris Saint-Germain où une page se tourne. Thiago Silva et Edinson Cavani vont partir. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match
avec Denis Balbir.
Ils ont là.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h, merci à Dani Matou qui réalise cette émission avec Philippe Sanfaux, Eric Silvestro d'RTL, Giovanni Castaldi et Sébastien Tarago de l'équipe. Giovanni Castaldi qui nous fait le plaisir d'être de retour. Ce soir.
Il a gardé son blouson.
Il a accepté l'invitation.
Parce qu'il est toujours pressé.
Il a tellement rendez-vous. Mais en fait, c'est l'émission contre moi, c'est à charge. Je vous ai manqué
c'est
tant
ça.
Que ça.
Bah, c'est ça. Ah, tu sais comment c'est.
C'est la jalousie.
C'est pas grave. Moi, je vous aime, messieurs. C'est le principal.
Alors, la Ligue des Champions, Philippe Sanfourche, qui aura lieu donc. Si nos informations sont bonnes et pour l'instant pas confirmées.
On va attendre effectivement. 17-18 juin.
Alors l'écart sur un match.
L'exécutif de l'UEFA qui va tout clarifier, mais c'est vrai que.
On part sur des quarts sur un match.
En plus, sur des quarts et demi sur un match. Tout ça à Lisbonne parce que plein de faisceau de choses positives sur le plan sanitaire, organisationnel, qui font que ça va se jouer là-bas.
Au Portugal.
Deux grands stades,
le stade du Sporting et le stade de la Luz.
Voilà, tout à fait. Schéma qui peut, à mon sens, on l'a déjà un peu abordé, mais avantager les clubs français parce que effectivement, il y aura un déficit de préparation et de reprise par rapport à la compétition. Mais sur un match, tout est possible dans des conditions particulières. Le huis clos, mine de rien, le PSG l'a expérimenté face à Dortmund et en garde plutôt un bon souvenir, voire un excellent souvenir. Ils pourront pas faire ce qu'ils ont fait à la fin.
C'est le retir de la pression.
Angel Di Maria pourra pas non plus. Lévin Kurzawa pourra pas prendre un bain de foule avec les fans derrière. Mais non, ce sera de toute façon quelque chose de totalement atypique qui fait que ça nivelle un petit peu forcément et que pour les clubs français qui ont peu l'expérience de ces hauts sommets, ça laisse un petit peu plus d'espoir.
C'est un bon compromis,
Sylvestre RTL. Moi, je suis assez séduit par l'idée. Parce que, non mais,
l'année est voilà, définitivement exceptionnelle. C'est quand même très compliqué de faire une vraie fin de Ligue des Champions avec des matchs aller-retour dans différents pays, etc. Bon, à partir où tu dois faire quelque chose d'un peu particulier, si tu décides d'aller au bout, pourquoi ne pas faire justement un produit comme celui-là ? Ça restera en effet...
Tu as tout dit. Tu as utilisé le mot qu'il faut.
C'est-à-dire ?
Un produit.
Oui.
Le football n'est plus un jeu, ce n'est plus un sport, c'est un produit.
Oui, mais enfin, on ne va pas faire semblant de le découvrir aujourd'hui.
C'est-à-dire que où est-ce que ça commence ? Ça, on sait que ça a commencé il y a un moment, mais où est-ce que ça s'arrête ? Moi, je ne sais plus.
En tout cas,
il faudra peut-être un jour qu'ils jouent un
slip. Non, mais dans ces cas-là, on dit on ne joue pas du tout la fin de la Ligue des Champions. Et pourquoi pas d'ailleurs ? Mais à partir du moment où tu la rejoues, vu le contexte, revanche, pourquoi ne pas faire champions. Ça ?
Tant mieux si le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais l'emporte, par exemple, après tout. Mais ça n'aura en aucun cas la même saveur que d'habitude.
Ça sera quoi qu'il arrive, une Ligue des Champions au rabais, parce que déjà les matchs aller-retour, c'est l'essence des phases d'élimination de la Champions League. On voit ce qui s'est passé l'an passé avec des retournements de situation absolument incroyables, et j'ai peur, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, même si c'est une crise qui est évidemment unique et qui frappe durement le monde du football, quoi qu'on en dise, le vainqueur de cette Ligue des Champions dira toujours il a gagné, mais c'est une Ligue des Champions au rabais, c'est pas la vraie Champions League. Ouais.
Mais tu peux pas empêcher les gens de faire ça, tu gagnes pas
une Ligue des Champions au rabais parce que tu la gagnes sur un match.
Mais si, tu peux pas empêcher.
Sur un match de toute façon.
Oui, non, mais d'accord, mais pour arriver à la finale, tu peux pas empêcher les gens de penser ça. Et moi, je suis un peu d'accord avec Seb. La Champions League, c'est censé être la quintessence du football. En faisant ça, tu dénatures ce qui est ta plus belle compétition parce que ça n'aura pas la même saveur.
Mais alors, tu fais quoi ?
Et bah, tu l'arrêtes.
Ah, d'accord. Non, mais
voilà. D'accord. Bon, Giovanni Castaldi veut toi arrêter.
Mais tu l'arrêtes.
Tu veux retourner à la plage, toi, déjà.
Mais ça n'a rien à voir avec la plage, parce qu'il y aura les autres championnats. C'est pas une question de plage. C'est juste que tu peux l'arrêter sans toucher à ton produit phare. Tu le dénatures en faisant ça.
Très bien. Mais moi, je suis pas contre l'arrêter. Mais voilà. Mais là, tu sais très bien que ça n'arrivera pas.
C'est-à-dire que
Philippe s'en fourchère TL.
Moi, je suis un des premiers à ne pas supporter ce football-là. Tout le monde est heureux de revoir des matchs. Les matchs de. On entendait Rudy Garcia tout à l'heure qui était pressé de revoir. Moi, je n'y arrive pas. Que ce soit les matchs allemands, les matchs espagnols, les matchs italiens, ça ne me plaît pas. C'est pas le football que j'aime. Donc, mon goût personnel est dérangé par ce produit-là. Et en plus, par expérience, le provisoire qui dure, on sait ce que c'est. Et je trouve que la facilité avec laquelle certains ont switché uniquement parce qu'on a été sevré pendant deux mois de match, de dire c'est quand même mieux que rien, et puis c'est pas grave qu'on mette des bruitages, et puis c'est pas grave qu'on mette du faux public, et puis moi ça me perturbe. Je trouve que c'est un non-sens, et qu'en plus d'un point de vue déontologique, c'est très très limite. Mais voilà, après, si on veut continuer, si on fait ces émissions-là, on va être obligé de les commenter, ces matchs et ces formules. Donc effectivement, elle est dégradée, cette Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que pour autant, il ne faut pas la jouer ? Le débat est ouvert, mais il n'y a déjà plus beaucoup de foot.
Dégradée, c'est un mot fort. Quand même. Elle est peut-être dégradée, un peu dénaturée.
C'est le terme.
Bah oui. Quand même,
elle est totalement dénaturée.
Moi, je pense qu'il faut la jouer parce que de toute façon, c'est parti. Voilà, mais ça va être la parfaite année pour le PSG. Ils vont la gagner. Je vais vous le dire, ça, c'est pour eux, ça. L'année où ils vont la gagner, les Parisiens, on va dire que ça vaut pas grand chose. C'est quand même terrible.
Édouard est avec nous, supporter du Real Madrid.
Édouard.
Bonsoir. Alors, la formule de cette Ligue des Champions, éventuellement, donc, qui se dessine sur un match après les huitièmes, le Real Madrid qui rencontrait Manchester City et qui n'a pas été dans une très bonne posture au match aller.
Si.
Non, oui, ils ont perdu
2-1.
Ah oui, non, pardon, le Real, je croyais City.
Oui, le Real. Édouard.
Bah écoutez, oui, évidemment. Alors, nous, en tant que supporters du Real Madrid, peut-être plus que tout autre supporter encore, on a envie que la compétition reprenne, quoi. Je veux dire. Ça fait 4-5 mois qu'on n'a plus de...
Est-ce que pour vous, Edouard, une victoire en Ligue des Champions cette année, c'est une victoire au rabais ?
C'est certain que ce sera une victoire qui sera différente, parce que comme vous l'avez dit, la compétition, si le débat c'est de savoir si la compétition est un peu dénaturée, oui, la réponse, c'est clair que c'est oui. Je veux dire, à partir du moment où on joue dans une même ville, on n'a plus de public, on n'a plus de match retour, bon, c'est plus la même compétition, mais à la fin, il faut rappeler quand même que ça reste les mêmes équipes, ça reste, on l'espère, le même football... Ça reste les mêmes enjeux à la fin.
Les mêmes équipes qui n'ont pas joué pendant trois mois. Il y a les fins de contrat au 30 juin. On prend par exemple l'exemple du PSG. T'as plus Kurzawa, t'as plus Meunier, t'as plus Choupo-Moting. Alors je suis d'accord, c'est pas les joueurs phares, mais ça sera pas les mêmes équipes, ça sera pas le même rythme. Moi, je suis un peu d'accord avec Philippe. Là, quand on voit la reprise des matchs,
il n'est pas impossible que ces joueurs la jouent.
De dire que c'est les mêmes équipes qui étaient au début de la compétition à la fin, c'est faux. Même en termes de rythme, en termes de jeu, c'est pas pareil. pareil. On voit que c'est totalement différent.
Donc, ah oui, ça, ça,
ben voilà. Donc ça ne sera pas du tout la même compétition. On dénature la compétition et en plus le spectacle proposé qui sera offert sera forcément moins bien que ce qu'on a l'habitude d'avoir.
Vous voulez tous qu'il n'y ait plus de foot.
Alors, ouais, c'est forcément un truc de moins bien, c'est pas certain. Forcément moins bien. On peut tout à fait espérer avoir des matchs d'une très grande qualité, même sans public et même sur une durée qui est plus réduite. Avec justement un terme.
Ce qui m'amuse, c'est que Giovanni Castaldi, ici présent, est en train de regarder la Bundesliga sans public, il trouve ça formidable.
Non, c'est faux.
Et la Ligue des Champions, il ne faut pas la jouer parce qu'il n'y a
mais
pas
non,
de public.
J'ai regardé,
naturel,
j'ai regardé le derby de Séville, j'ai trouvé ça honteux. J'ai pas pris de plaisir.
Honteux.
Non, mais honteux. J'ai pas pris de plaisir.
T'as souvent dit ça le samedi soir aussi devant des matchs de Ligue 1 où il y avait du public et où c'était un championnat.
Il
n'y
avait pas toujours du public chez toi, Monaco, il n'y en a pas beaucoup.
Mais ça n'empêche pas d'aller en finale de la Ligue des Champions.
Bon, Edouard, pour terminer, est-ce que la version
classique en plus, la vraie.
Est-ce que le Real Madrid est en bonne position pour vous pour remporter cette Ligue des Champions?
Alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en meilleure position que ce qu'ils étaient il y a quelques mois, parce qu'ils ont récupéré, là, je viens de voir le groupe qui affrontera Ibar demain, ils ont récupéré Eden Hazard, ils ont récupéré Marco Asensio. Voilà, ils ne vont pas jouer à City, donc ils n'auront pas le public de City qui aurait été contre eux.
Oui, c'est pas un grand public.
Fait pas grand mal.
C'est pas un grand public qui fait mal. Par contre, Lyon, la Juve, ça, c'est bien de pas avoir le public.
Oui.
Mais ils sont en meilleure position que ce qu'ils étaient. Est-ce qu'ils sont en très bonne position pour la gagner? Bon, le Real Madrid, on l'a vu par le passé, a pu nous surprendre quand on pensait qu'ils étaient outsiders, qu'ils pourraient pas la remporter. Ils l'ont fait quand même. Donc, évidemment, nous, c'est notre compétition fétiche. On a envie qu'elle continue. On a envie qu'elle reprenne. On veut avoir du football en août, quoi. Je veux dire, on a attendu des mois. C'est quand même fabuleux, je trouve, de pouvoir avoir tout un mois de football, de Ligue des Champions, l'été, avec des amis, on va pouvoir se mettre devant la télé, les pizzas, et on va pouvoir regarder du football européen.
Merci Edouard d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. On est ensemble jusqu'à 20h, on va ouvrir après la pub un gros dossier Paris Saint-Germain, puisqu'une interview de Leonardo est à paraître demain dans le journal du dimanche, où Cavani et Thiago Silva ne seront plus là, et comme l'a dit Giovanni Castaldi, qui est toujours très bien informé, Meunier, Kurzawa et Choupo-Moting également, qui vont quitter le club de la capitale. A tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
Équipement selon version.
Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Giovanni Castaldi, Sébastien Tarago de l'équipe, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. Une dernière précision, ce qui concerne la Ligue des Champions, enfin les Coupes d'Europe, l'Europa League aura lieu en Allemagne et la Ligue des Champions féminine en Espagne, où Lyon et le Paris Saint-Germain sont toujours engagés. Les huitièmes retours qui ne doivent être joués, Juve-Lyon, Manchester City-Real Madrid, Barcelone-Naples et Bayern-Chelsea. Ce sera normalement le 22 et le 23 août. Le dossier du Paris Saint-Germain est ouvert. Philippe Sanfourche, Leonardo s'est donc exprimé dans le journal du dimanche qui paraît demain. Exit Cavani, en place depuis 2013, 200 buts, 301 matchs, 33 ans. Exit Thiago Silva, 35 ans, qui veut rester en Europe. Meunier, Kurzawa, Choupo-Moting ne seront pas conservés. Tourelle a été maintenu dans ses fonctions dans les propos de Leonardo assez timidement. C'est Philippe Sanfourche.
Oui, alors bon, j'ai pas encore vu dans le détail les propos de Leonardo, mais bon, ça semble quand même assez clair la clarification. Qui n'est pas non plus une immense surprise. C'est vrai que quand on a appris que Thiago Silva ne serait pas conservé, on imaginait mal qu'il y ait une différence de traitement avec Cavani. C'est à peu près le même statut. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est capitaine depuis le début, qui représente l'ère QSI, la première grosse prise. Faut se souvenir quand il était arrivé du Milan, ça avait initié ensuite la venue de Zlatan. Et puis Cavani, il restera quoi qu'on en dise, quoi qu'il arrive, comme le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, symboliquement, c'est très fort. C'est-à-dire que là, on est vraiment à un virage de l'histoire de ce PSG version Qatari. Ça s'entend par rapport au projet, ça s'entend sportivement aussi, parce que ce sont des joueurs qui, à mon avis, sont arrivés au sommet de ce qu'ils ont donné et que les grands clubs n'attendent pas le déclin des grands joueurs pour pouvoir les remplacer. Mais c'est les deux en même temps, c'est manifestement un virage qu'il va falloir négocier pour le Paris Saint-Germain, et c'est pas une évidence.
Eric Silvestro.
Moi, je pense que le virage est logique. Il était annoncé. Leonardo s'en est jamais vraiment caché, pour toutes les raisons qu'a évoqué Philippe. Il y a aussi une très grosse économie salariale. Il faut pas l'oublier.
Deux
très très gros salaires qui va permettre aussi peut-être d'en faire venir d'autres ou d'en créer des nouveaux ou d'en augmenter.
T'as raison de dire ça. C'est 30 millions d'euros
d'économiser
hors charges salariales.
Voilà.
Donc il faut en plus multiplier par 1,6 cette somme.
Et donc voilà, sachant que Cavani a déjà été remplacé
par Icardi, c'est ce que j'allais dire. Voilà, reste le cas Thiago Silva, mais il y a quand même aussi plusieurs défenseurs centraux à Paris. Il y en a peut-être d'ailleurs un qui va arriver aussi, on verra. Kurzawa, Choupo-Moting, bon, on savait très bien que c'est des joueurs de complément que le PSG n'en a pas forcément besoin. Meunier, c'est un cas un peu à part.
Meunier, c'est une perte.
Meunier, c'est une perte parce qu'en rapport qualité-prix, pour le coup, Meunier, c'était quand même utile. Donc là, c'est un cas pour moi. Ouais, pour moi, c'est vraiment un cas à part Meunier. Pour le reste, il n'y a pas de grosses surprises. Et Thiago Silva, c'est certes un très bon joueur qui doit d'ailleurs encore être, à mon avis, un très très bon niveau. Mais pour Paris, à un moment, il faut passer à autre chose.
Il y aura une polémique habituelle aussi sur les jeunes, puisqu'on dit que Adil Awichiche est convoité par l'AS Saint-Etienne, que Tanguy Kouassi va partir. Il a 18 ans, il a joué 13 matchs plutôt bien, il est polyvalent, il est mature pour son âge. Apparemment, il n'aurait pas reçu une proposition, une garantie assez suffisante pour s'imposer au Paris Saint-Germain. Est-ce que Sébastien Tarrago, l'équipe, on parlait de virage, Philippe Sanfourche a juste titre parlé de virage. Ça aussi, c'est un virage de laisser partir ses meilleurs jeunes. Mais
alors, il ne les laisse pas partir, mais ce serait Kouassi qui décide d'aller ailleurs. Je pense que le Paris Saint-Germain, c'est même une certitude, voulait garder Kouassi. Et c'est une grosse perte si effectivement il est confirmé qu'il s'en va, parce que ce garçon avait montré dans certains matchs qu'il avait déjà le niveau de l'effectif professionnel. Il n'avait pas de contrat professionnel et il jouait quand même, et il a été plutôt intéressant. Alors parfois sur des matchs plus simple, notamment en Ligue des Champions, le dernier match de Ligue des Champions contre Gal, c'était contre qui ? Le club turc à domicile,
Galatasaray.
C'était des matchs plus faciles, mais quand même, c'était très intéressant de le voir évoluer, surtout qu'il était performant au milieu de terrain, il pouvait l'être éventuellement dans l'axe.
Polyvalence, à un moment Thiago Silva s'en va et où il y a toujours un déficit de taille, de poids, de puissance au milieu de terrain.
Il est capable de marquer des buts.
Mais après, on verra si jamais il décide vraiment de partir, il faut voir le choix qu'il fait. S'il fait un choix sportif, vraiment, ou pour avoir du temps de jeu, ou à Paris, il n'a pas la garantie parce qu'il y a une énorme concurrence, ça ne me choque pas. Si c'est pour partir dans un très grand club en Angleterre parce qu'on lui propose encore plus financièrement ou ailleurs, là, ce serait plus de sud. Dans ces cas-là, vaut mieux qu'il reste à Paris. Mais je pense qu'il le fera avec du temps de jeu.
Il prendra le temps de jeu.
Dans ces cas-là, ça se comprend.
On a parlé de Leipzig, du Milan AC.
Oui, il y a la concurrence.
Là, il y a du temps de jeu sans doute pour lui.
Ah oui, évidemment.
On a l'exemple par exemple de Diaby que Thomas Tuchel aimait bien, qui marche très bien avec le Bayer Leverkusen. Il y a aussi Nkunku qui marche très bien avec Leipzig. Donc voilà, s'il choisit le temps de jeu, c'est logique. Mais c'est toujours la même problématique pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faut que les jeunes y jouent. Mais vous avez vu les joueurs
qu'il y a. Après, Nkunku, il a eu plus de temps et il s'était relativement imposé sans s'imposer complètement. Donc au bout d'un moment, bon, il est parti. Kouassi, on aurait aimé peut-être le voir encore sur un an pour aller titiller.
Ouais, pour confirmer un petit peu. Ouais. Philippe Sanfourche, ces jeunes qui s'en vont, en tous les cas, qui ne reste pas au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est un échec pour le PSG de ne pas réussir à les retenir ?
C'est toujours vécu comme tel, parce que quand ils sont vraiment excellents, dans le cas, je penserais peut-être à Kingsley Coman ou des joueurs comme ça qui auraient la possibilité d'être titulaires au Paris Saint-Germain, on a le sentiment qu'effectivement c'est du gâchis, parce que il y a ce côté le bassin parisien qui est peut-être en Europe l'endroit où on voit éclore le plus de talent et de capacité à pouvoir évoluer au très haut niveau. Maintenant, la façon dont le Paris Saint-Germain est construit, il peut pas y avoir non plus profusion, donc c'est finalement assez logique. Quand on voit un garçon comme Presnel Kimpembe qui n'est pas encore certain, parce que là c'est vrai que la tendance du moment ce serait de dire que Thiago Silva ne sera pas remplacé, mais je pense que c'est surtout parce que c'est moins facile de boucler le dossier Koulibaly, mais oui. S'il avait été facile à boucler,
il serait déjà là.
Parce que s'il n'est pas remplacé, ça veut dire que tu pars sur la saison avec Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kerrer, hein, je ne dis pas Kerrer. De bêtises dans l'axe. Quatre très bons joueurs internationaux, mais bon. Entre Kimpembe, Kerrer et Diallo, t'en as aucun des trois qui t'offre quand même une certitude.
Marquinhos quand même, les gars.
Oui, Marquinhos.
Non, c'est pour ça que j'ai cité les trois.
Oui, d'accord.
À côté de Marquinhos, ni Kerrer, ni Diallo, ni Kimpembe. Ouais. Peut-être Kimpembe quand même un peu plus, mais
depuis la Coupe du Monde, Kimpembe, c'est très compliqué.
Donc tu peux pas dire, voilà, j'ai aucun problème, j'ai un deuxième mec qui est ultra costaud, ultra solide, quoi qu'il arrive sur toute la saison.
Non mais là, moi c'est pour ça, encore une fois,
Sébastien Tarrago, l'équipe.
Petite marotte personnelle, mais c'est pas grave. J'attends avec impatience la saison prochaine, si Thiago Silva, enfin en tout cas quand Thiago Silva ne sera plus là et qu'on analysera les matchs, je pense que très rapidement tous autour de cette table vous direz à quel point Thiago Silva manque. Vous, on ne se rend pas compte du talent, de la performance de ce garçon depuis 8 ans.
Oui, mais
c'est
à un moment tu dois prendre un risque.
Une folie. Mais ça je comprends. Non, mais ça je comprends parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, il symbolise quelque part la lose, la défaite, tout ce que vous voulez. Bon, ça ne correspond en rien quand vous analysez vraiment les matchs, mais je le comprends totalement. Voilà. Et il fallait pas tourner la page. Mais sur le plan sportif,
Est-ce que c'est pas son comportement qui a pris le pas,
Vous savez, Denis Balbir, c'est une question.
Est-ce que c'est pas son comportement qui a pris le pas sur son
Brésil? Est-ce que tous les sélectionneurs du Brésil et tous les entraîneurs du Paris Saint-Germain qui se sont succédés depuis 8 ans sont tous des idiots?
Moi, je constate
une chose, c'est qu'en 2014, après la Coupe du Monde au Brésil, il n'a plus été sélectionné. Ça a duré 6 mois. Ouais. Il est revenu, et vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il a été titulaire tout de suite. Parce que c'est le meilleur. Et on n'a jamais vu ça depuis 10 ans en France. Je vous dis qu'il sera très dur à remplacer. Après, les histoires, c'est pas un bon capitaine, c'est pas... Ok, il n'est pas parfait. Alors, je ne connais pas Jean Parfait. Mais moi, ce que je vois, c'est les matchs de football, il les jouait et il faisait gagner le Paris.
Je suis d'accord avec toi, Sébastien, sauf que maintenant, à 35 ans, à 12 millions par an, il y a un moment où tu dois tourner la page.
Ça, c'est un autre débat.
Je suis d'accord avec toi.
Moi, je serais au Paris Saint-Germain. Je recruterai quand même un défenseur central.
Mais moi, je serais inquiet, voilà. C'est tout. Je dis juste que je serais inquiet.
On se retrouve dans quelques secondes après la pub. Giovanni Castaldi pourra s'exprimer largement sur le Paris Saint-Germain et sur Thiago Silva. Car il a beaucoup de choses à dire sur Thiago Silva. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h. Nous allons évidemment poursuivre ce débat avec Baptiste Durieux qui va relayer les opinions des auditeurs. Nous aurons également Aurélien et Eric, supporters du Paris Saint-Germain. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match avec Denis Balbir. .fr. Denis Balbir sur RTL. On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Sébastien Targaud de l'équipe, grand fan de Thiago Silva, Giovanni Castaldi, Philippe Sanfourche et Eric Silvestro d'RTL. Baptiste Durieux est avec nous pour relayer un petit peu les avis des auditeurs d'RTL, justement sur ce qu'on dit à propos du Paris Saint-Germain.
Absolument, et notamment sur Thiago Silva, le message de Vincent. Thiago Silva, pardonnez-moi l'expression, mais c'est le cul entre deux chaises, c'est le haut monstro, une légende du club et un super joueur. C'est aussi Thiago Silva et le symbole d'un PSG au mental de hamster. Son départ est plutôt positif aujourd'hui, nous dit Vincent. Et puis le message de Flavien, le PSG est un excellent formateur qui offre des cadeaux aux autres clubs avec des jeunes qui excellent en Europe. Et puis il rajoute, cette politique est vraiment frustrante et complètement illogique.
Eric, auditeur d'RTL et supporter du Paris Saint-Germain, est avec nous. Bonsoir Eric.
Bonsoir Dani, bonsoir l'équipe.
Toute cette lessive qui se prépare au Paris Saint-Germain, parce que ça fait quand même, c'est un peu synonyme de ça.
Alors, bon, je pense qu'il faut un petit peu de changement, mais pas autant que ça. Moi, je suis désolé, Cavani et Thiago Silva, il pourrait servir, hein. Pour l'an prochain déjà il pourrait servir. Thiago Silva au monstro, alors moi je suis complètement de l'avis de Sébastien, je crois. Ce mec là il a un talent énorme, c'est une présence incroyable sur la feuille de match. Quand les équipes adverses arrivent et qu'elles voient Thiago Silva, déjà elles savent qu'elles vont galérer, quoi. Je me souviens de son but à Chelsea, il avait la hargne, il avait tout ce qu'il fallait. Moi Thiago Silva je l'aurais gardé absolument. Cavani je l'aurais gardé aussi pour service rendu, peut-être avec une baisse des émoluments, après je sais pas. Mais
ils veulent pas,
ça,
les mecs.
Ça c'est quelque chose qui est très intéressant, personne ne veut baisser son salaire.
Moi je me suis dit, pas tous en même temps.
J'ai souvent parlé de ça, par exemple avec Bichente Lissarassu, qui disait que c'était aussi dans la carrière d'un joueur, quand t'avais marqué l'histoire d'un club, que le club te rende le truc en te gardant jusqu'à la fin. Lui il faisait référence à sa fin de carrière au Bayern et tout ça. Mais après il faut aussi que ce soit donnant-donnant, c'est-à-dire que Thiago Silva, tu lui fais refaire un an, mais il accepte par exemple de baisser son salaire. Je crois qu'il n'avait pas du tout l'intention de baisser un centime de son salaire.
Et on peut le comprendre en plus.
Et on peut le comprendre, ça peut être acceptable, pourquoi pas. Mais simplement, je sais que ça va être interprété diversement cette affaire, et que de l'extérieur, parfois, il y aura peut-être un peu la facilité de jugement de dire, oui voilà, Paris c'est pas une institution, les mecs ils se barrent comme ça, on les fout dehors, Cavani, Thiago Silva, ils ont donné beaucoup.
Vous pensez qu'il aura le même salaire ailleurs? Il va baisser son salaire ailleurs.
Ouais, mais il aura une prime à la signature, et l'arrivée, il aura le même salaire qu'à Paris.
Bien sûr que oui.
Ah, je sais pas.
Il va prendre 5 millions de primes à la signature et 7 de salaire au lieu de 12, et ça fera 12 à l'arrivée.
Non, mais même sur le cas d'Edinson Cavani, c'est pareil. Il devait partir cet hiver. Le problème avec l'Atlético de Madrid, c'est des questions financières. Parce que c'est normal, Edinson Cavani n'a pas baissé son salaire. Et tu négocies pas un transfert de la même manière lorsque tu es libre et lorsque tu es sous contrat. Et c'est normal qu'il y ait des enjeux financiers des deux côtés. Mais moi, je comprends le Paris Paris Saint-Germain, vu le contexte, t'as deux garçons qui sont en fin de cycle, t'économises deux énormes salaires, c'est normal, il faut tourner la page à un moment. Et on peut pas constamment vivre dans le passé.
On touche un autre problème, c'est la politique salariale générale du Paris Saint-Germain, où tu as plus de 10 joueurs de l'effectif qui sont à plus d'un... Et non mais, parce qu'à un moment, tu donnes les plus hauts...
C'était le capitaine et le meilleur buteur,
non,
c'est normal.
Non, bien sûr, mais j'élargis à d'autres joueurs, où quand tu veux contrer les autres clubs européens pour faire venir ces joueurs-là, t'es obligé de les surpayer quand t'es le PSG. Une fois qu'ils sont surpayés et que tu les augmentes en permanence, et ben après, forcément,
ils veulent pas partir.
Et voilà, ils veulent pas partir.
Et ils partent tous libres.
Et Eric, le mot de la fin pour vous, supporters du PSG, c'est vraiment une page qui se tourne et ça va être difficile ou c'est bon, ils sont, on va dire, Cavani remplacé par Icardi, oui. Thiago Silva, comme le dit Sébastien Tarago de l'équipe, ça va être très très dur de remplacer. Au moins.
Ça va être très très dur. Déjà, on avait déjà des soucis en défense avec les latéraux. Là, ça va faire un gros chantier quand même. Ça va être très compliqué, je pense.
Merci beaucoup, Eric. Aurélien du Paris Saint-Germain également, enfin, supporter du Paris Saint-Germain. Aurélien, qu'en penses-tu de tous ces changements qui s'annoncent dans ton club?
Moi, plutôt à l'inverse d'Eric précédemment, je pense que ça ne sera pas spécialement difficile de remplacer Thiago Silva. Je respecte beaucoup le joueur. Et je suis pas en train de cracher dessus, rien à voir, pas du tout. Je remercie même pour toutes ces années et voilà tout ce qu'il nous a apporté. Mais vous savez comment fonctionne maintenant les clubs, c'est surtout du sentiment, il en faut, mais pas trop. C'est-à-dire que prolonger Thiago Silva à 35 ans, pourquoi? Pour lui dire t'as bien travaillé, on va te récompenser. Mais en fait, la mission de Thiago Silva, c'était de faire gagner la Ligue des Champions à Paris en tant que capitaine et leader d'équipe, et il a échoué dans cette mission. Donc, vu que tu as échoué, merci, parce qu'on a quand même gagné énormément de titres, mais pas le Graal. Donc, on va essayer de
le faire. C'est du football.
Le problème, c'est que quand les joueurs du PSG refusent de baisser leur salaire, c'est la faute de Thiago Silva. Quand le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, c'est la faute de Thiago Silva. Et Covid-19, c'est la faute de Thiago Silva.
Oui, non, mais
on est dans un délire total, en fait.
Aurélien, supporter du PSG.
Non, mais là, on est dans le délire de ce que vous venez de dire, surtout, parce que moi, c'est très clair ce que j'ai dit. Alors que l'histoire du Covid-19, mais non, mais là, c'est juste pour me contredire, mais il n'y a aucun argument. Moi, je suis en train de juste.
Si, puisque vous dites qu'ils n'ont pas gagné avec des champions à cause de Thiago Silva. Je pense qu'il y en a d'autres qui étaient là sur le terrain.
Non, mais en fait, si vous voulez, il y a des joueurs dans l'équipe qui ont une importance. Que d'autres n'ont pas, et on l'a vu aussi peut-être avec l'équipe de France en 2018, où on disait au début de la compétition que la France n'allait sans doute pas gagner, et on a eu des leaders, des gros leaders techniques comme Matuidi, Lloris, Varane et évidemment Pogba, on l'a vu dans les documentaires, et peut-être que Thiago Silva ne nous a pas apporté ça, et en fait voilà, c'est un constat, mais évidemment que c'est pas un joueur, mais Il a échoué dans cette mission. C'est pas le capitaine qui lèvera la Ligue des Champions.
Mais vous pensez vraiment que Matuidi est un leader technique, monsieur?
Pardon?
Vous avez dit que Matuidi était un leader technique. Vous pensez vraiment que c'est le cas?
Non, je me suis trompé. Si j'ai dit technique, c'est pas ce que je voulais dire. Leader.
Giovanni Castaldi, le mot de la fin sur le Paris Saint-Germain.
Je trouve qu'on touche vraiment le point important sur Thiago Silva, parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, la notion de capitaine, je pense qu'au Paris Saint-Germain, ça a été un problème. Et on a parlé de son départ. Je pense que d'un point de vue du vestiaire, je pense que c'était le bon moment pour que ça se termine et qu'il parte.
Exactement.
Et il y a aussi le symbole de l'acteur, c'est la première grosse prise des Qataris avant Zlatan et tout ça. Je pense qu'à un moment aussi, on a l'impression que les Qataris, ils empilent, et comme c'est les petits protégés des Qataris, les mecs ne bougent pas. Le fait qu'il y ait aussi quelques symboles de cette ère Qatari qui change, et pour faire un renouveau, je pense que c'est bien aussi comme message, parce que sinon, tu as l'impression qu'ils sont tous protégés, que quoi qu'il arrive, les mecs ils sont augmentés tous les ans, et qu'ils resteront toujours là parce que c'est les potes de Nasser.
La relation Thiago Silva-Nasser, voilà. elle a posé... Beaucoup de problèmes et questions au sein du groupe longtemps.
Et donc là, je pense que c'est aussi un signe de... Voilà, il faut évoluer, il faut avancer, il faut ouvrir une nouvelle page.
Moi,
c'est très bien.
Merci messieurs pour ces opinions sur le Paris Saint-Germain. On se retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour la dernière ligne droite dans Fait le Match avec Giovanni Castaldi, Sébastien Tarago de l'équipe, Philippe Sanfourche et Eric Silvestro. Jusqu'à 20h, c'est en Fait le Match. A tout de suite sur RTL.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Ils le refont le match avec Thiago Silva comme star de la soirée. Sébastien Tarago de l'équipe, Giovanni
hein.
Castaldi, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. A noter que pour en finir avec le Paris Saint-Germain, Neymar est revenu en France. Et puis une information Mercato qui intéresse Saint-Etienne. Franck Honora signera à Brest pour 5 millions d'euros. Et Denis Bouanga.
5 millions d'euros.
Ouais. Et Denis Bouanga, pour l'instant, reste à Saint-Etienne. Hein, aucune offre n'a été formulée à la Saint-Etienne pour Denis Bouanga. Honora, courtisé par Lorient, a choisi Brest pour 5 millions d'euros, effectivement.
Les crises économiques qu'on nous avait annoncées, que tous les clubs français allaient être par terre. Je vois que Bernard Denis signe pour 7 millions à Angers, Honora pour 5 millions
mais
à Brest.
On l'a dit que les petits clubs, non, mais... ils avaient tout sécurisé, qu'il n'y avait aucun problème.
Non,
voilà,
mais, non mais tant mieux, tant mieux. Il y a deux mois, on nous parlait de tout le monde, tous les clubs français.
C'est vrai que c'est sous la les clubs comme Brest, par exemple, étaient ravis que la saison s'arrête. Mais parce qu'ils avaient touché notamment la plupart de leurs droits télé. Il s'est exprimé à ce sujet. Mais c'est quand même embêtant parce que là, le championnat de France n'est pas bon et il n'est pas meilleur au cours des. Il ne s'est pas amélioré au cours des dernières années. Mais les prix augmentent, les prix augmentent, les prix augmentent. Et là, on se retrouve avec Honora à 5 millions. Donc c'est affreux parce que n'importe qui va valoir
10 millions, 5, 15 millions.
10, ouais, 15, 20 millions. Et voilà, on n'avance pas en fait. Les prix des transferts augmentent, mais la qualité baisse.
Le monde d'après.
On va pas faire non plus 10 minutes sur Honora.
Mais on les garde jusqu'à fin ou pas, Thiago Silva?
Alors voilà, justement, c'est ça le.
C'est le souhait de Leonardo.
C'est ça la question. Philippe Sanfourche.
C'est encore dans l'interview du JDD, c'est le souhait, mais après, il va falloir aussi que les joueurs soient d'accord.
Est-ce
que
s'ils
contractent avec d'autres clubs derrière, à partir de quand, est-ce qu'ils auront le besoin d'être avec leur club? Certainement à partir du mois d'août. Donc ça va poser. On n'a pas eu le temps non plus de le rappeler, mais le cas de. C'est autre chose, mais le cas de Lucas Touzard qui a commencé, qui est un des acteurs importants de la Ligue des Champions et qui ne va pas la terminer avec Lyon. Bon, on est quand même dans une saison très particulière.
Il y a une différence, c'est que Lucas Touzard est déjà signé.
Oui, bien sûr.
Et du coup, le club a dit bah non, t'as signé chez nous. Avec Thiago Silva et Cavani, en plus, le mercato s'ouvrant en septembre, tu peux très bien éventuellement projeter et après signer ailleurs.
Il nous reste deux minutes. Sébastien Tarago, votre opinion sur cette Ligue 1 qui se profilerait éventuellement à 22?
Ah, oula. Pardon, on change de sujet.
Moi, je
suis opposé. Je pense qu'Amiens et même Toulouse, même si là aussi on pourrait en discuter longtemps, et je comprendrai, mais je pense qu'ils ne doivent pas descendre en deuxième division parce que la saison n'était pas terminée, que le sport, ça se termine pour un match de foot à la 90e minute plus les arrêts de jeu, pas à la 80e.
On l'a encore vu avec Dortmund.
Mais là, tu ne fais pas monter. Alors.
Giovanni Castaldi.
Je ne fais pas monter les clubs de Ligue 2.
Tu ne fais pas monter non plus.
Bah non, bien sûr que non.
Giovanni Castaldi,
pas fini.
Non, mais d'accord, mais moi, je pense qu'on a joué 28 journées, 27, et que je pense qu'ils ont pris la décision d'arrêter la Ligue 1, qu'Amiens, Toulouse doivent descendre et qu'on doit rester à une Ligue 1 avant. Mais bien sûr que oui.
C'est un scandale absolu.
Mais tout est un scandale.
Mais le troisième qui a un point du deuxième en Ligue 2, il monte pas.
Mais
c'est un scandale.
Quoi qu'il arrive, c'est une injustice.
Quand on aime le sport, on aime que ça aille au bout. Et quand tu te lances dans une compétition, tu vas au bout.
Mais tu peux pas
terminer, aller au bout. Et ben, t'as pas gagné, t'as pas perdu. C'est
donc
comme
tu fais une saison blanche.
Il y a bien entendu.
Après, ce débat, il est sans fin. Ce qui est sûr, c'est que factuellement, ça paraissait totalement improbable il y a encore 8-10 jours. On a l'impression qu'il y a un faisceau d'éléments qui pourrait nous amener à cette Ligue 1. Le Conseil d'État a quand même tranché en faveur de cette décision-là, avec injonction à la Ligue de regarder comment elle pouvait organiser les choses. Et là, manifestement, le diffuseur serait...
D'accord.
Ouvert à
mais ça n'a
ça
aucun sens.
Et
c'est lui qui a les matchs supplémentaires ou c'est les autres diffuseurs?
Eric Silvestre.
Parce que qui va les avoir ces matchs?
Ah bah là, je pense que tu remets tout sur la table.
Ah enfin, oui,
tu remets,
ça n'a aucun
tu
renégocies tout.
On va terminer avec ce sondage Sport Odoxa Groupama RTL qui s'intéresse au format de la prochaine saison de la Ligue 1, également à l'image de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui aurait perdu donc 13 points de popularité par rapport au baromètre d'avant très certainement et par rapport à son combat qu'il a mené. Voilà, bon, c'est une information Odoxa Groupama RTL, c'est un sondage, mais bon.
Aulas, non, mais c'est un peu vrai. Moi, je suis désolé, ça reflète quand même quelque chose.
Oui.
Jean-Michel Aulas, parfois à force de vouloir trop défendre l'Olympique Lyonnais, il dessert sa cause en permanence.
D'accord, il dessert sa cause, mais en tous les cas, il a fait énormément pour son club. On va rester là, merci. Très bonne soirée. Très bonne soirée.
C'est lui qui t'a
dit. Si Lyon a été européen tous les ans, c'est grâce aussi au président Aulas.
Il est 19h57
et 50 secondes. Merci Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RT, Giovanni Castaldi. C'était un plaisir. Sébastien Tarago de l'équipe, à plus tard. Merci, bonne soirée. We'll be right back.